le magazine des Nations Unies.
Bonjour à tous. Le magazine de ce dimanche s'ouvre sur le bilan des manifestations de la semaine dernière à Kinshasa et dans d'autres villes du pays, ainsi que le lancement des opérations militaires conjointes FARDC-MONUSCO contre les FDLR, deux sujets essentiels débattus au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies mercredi dernier. Les détails dans un instant. Et puis environ 30 000 nouveaux réfugiés centrafricains signalés depuis décembre dernier dans le nord de la province de l'Équateur, un chiffre révélé au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés par la Direction générale des migrations. Dans cette émission, le porte-parole de la représentation régionale du HCR en RDC sera notre invité. Vous aurez plus de détails sur ce nouvel afflux et sur les priorités de 2015. Enfin, encore des chiffres pour finir. Plus de 3 000 cas de lèpre en République démocratique du Congo, une maladie récurrente qui persiste en RDC et dans le monde malgré le traitement et la prise en charge des maladies. Quel est aujourd'hui l'état des lieux de la lèpre dans notre pays? Un spécialiste de l'OMS en RDC nous en parle dans cette édition. Ce sera tout pour les titres.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Mesdames et messieurs, bonjour. À quand les opérations militaires conjointes FARDC-MONUSCO contre les rebelles rwandais des FDLR? Quelle lecture et quel bilan la MONUSCO fait-elle des récentes manifestations de mécontentement populaire à Kinshasa et dans d'autres villes du pays, notamment en ce qui concerne les violations des droits de l'homme? Eh bien, ces questions étaient au centre de la conférence hebdomadaire des Nations Unies mercredi dernier. Jean-Pierre Elali Coco a assisté à ce rendez-vous. Suivez son reportage.
D'abord, la question des FDLR. L'ultimatum ayant expiré le 2 janvier dernier, après l'annonce des préparatifs et du feu vert du gouvernement, l'opinion s'impatiente. À quand l'attaque contre les rebelles rwandais? Pour Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, tous les partenaires sont unanimes. Les négociations ont échoué. Maintenant, les opérations militaires conjointes vont commencer sous l'égide des FARDC.
Nous sommes impatients, vous êtes impatients aussi de commencer les opérations. Ce seront des opérations qui seront menées par les FARDC avec le soutien de la MONUSCO. Les planifications conjointes sont là et on est prêt de réagir. Mais aussi, ça serait plus dur, ça serait plus long. C'est un autre combat, mais ça va commencer. Et je suis très très confiant que ça va commencer sous l'égide des FARDC.
Martin Kobler se presse de préciser la cible.
Nous combattons seulement les combattants des FDLR, pas la population civile, pas les Hutus congolais, pas les réfugiés rwandais, pas la population. Notre cible, ce sont les combattants.
Et sur ce point, le chef de la MONUSCO se charge de faire rapport de la situation des FDLR au chef d'État africain à la réunion de l'Union africaine à Addis Abeba. Autre sujet débattu, c'est la lecture ainsi que le bilan que la MONUSCO fait des manifestations qui ont eu lieu à Kinshasa et dans d'autres villes du pays à la suite de l'examen et de l'adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi électorale. Pas de bilan à proprement parler pour le moment, explique le général Abdallah Wafi, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations dans l'Est. La section des droits de l'homme de la MONUSCO documente, enquête pour présenter le moment venu, un rapport crédible. Général Abdallah Wafi.
Nos équipes sont en train de travailler. Nous avons voulu privilégier une recherche méthodique de vérifier et de pouvoir documenter parce que le rapport que nous allons faire par rapport à ces événements doivent être des rapports bien documentés, crédibles et qui puissent aider à restaurer la confiance et la sécurité.
Notons que le général Wafi quitte définitivement la RDC dans quelques semaines. Il est appelé désormais à d'autres fonctions au siège des Nations Unies à New York.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Plus de 3000 cas en RDC, la lèpre persiste dans le pays malgré l'avancée enregistrée dans le traitement. Quel est l'état des lieux de cette maladie et quelles sont les stratégies pour lutter efficacement contre elle? Le magazine des Nations Unies a posé ces questions au docteur Vital Mondonga. Il est chargé de la lutte contre la maladie à l'OMS RDC. C'était à l'occasion de la journée mondiale des lépreux, célébrée le 25 janvier de chaque année. Il répond aux questions de Jean-Pierre Elali Ikoko.
Docteur Vital Mondonga, bonjour.
Bonjour.
Le 25 janvier, c'est la journée mondiale des lépreux. Cette maladie persiste dans le monde et surtout en Afrique et en RDC, malgré l'existence des traitements. D'abord, docteur, qu'est-ce que c'est la lèpre?
La lèpre est une maladie infectieuse chronique causée par les bacilles des Hansens. C'est un bacille qui est semblable au bacille des coqs. La maladie attaque principalement la peau, les nerfs périphériques, et c'est une maladie qui peut se soigner facilement, mais lorsqu'elle est non dépistée, elle provoque des infirmités au niveau des mains, des pieds, au niveau des yeux.
Justement là, ça c'est l'évolution, on va y arriver, mais est-ce qu'il y a plusieurs formes de lèpre?
Oui, en général, il y a deux grands groupes de lèpre. La lèpre possibacillaire et la lèpre multibacillaire.
Et la différence, c'est quoi?
La différence, c'est surtout au niveau de la symptomatologie. Au niveau de la lèpre possibacillaire, on voit moins de taches sur la peau, tandis qu'au niveau de la lèpre multibacillaire, on voit plus de taches, généralement plus de 5 sur la peau. Il y a en plus de ça parfois des nodules.
Docteur, comment évolue cette maladie, dès les symptômes jusqu'à vraiment l'aggravation des cas?
Bon, la lèpre est d'abord, c'est une maladie à contamination insidieuse. La durée d'incubation, elle est très très longue. Elle va jusqu'à 5 ans, voire même 20 ans avant l'apparition des signes. Elle peut se soigner très facilement, mais lorsqu'elle n'est pas soignée, elle entraîne les atteintes au niveau de la peau et des nerfs et au niveau des extrémités. Et au niveau de la peau, on peut voir des taches qui ne sont pas sensibles. Donc si vous touchez ces taches-là, la malade ne ressent rien. Au niveau des mains, des pieds, parfois il y a des plaies. Et au niveau des yeux aussi, il y a des lésions, parce que toutes ces lésions sont insensibles. Hein. Les malades continuent à appuyer sur ses pieds, alors qu'ils devaient écarter les pieds. Mais comme ils ne sentent rien, ils ne se sentent pas malades, ils ne consultent pas, et les lésions s'installent.
Vous avez parlé des yeux. Est-ce que la lèpre peut conduire à la cécité?
Oui, c'est possible si les yeux ne sont pas soignés. Ça peut conduire à la cécité.
Alors, la RDC est avec la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie et le Madagascar, les pays qui comptent le plus de cas de lèpre, bien qu'en nombre plus réduit. Quel est l'état des lieux actuels de cette maladie en République démocratique du Congo?
Oui, il est vrai que au niveau mondial, un effort est fait pour la réduction de la charge de morbidité de la lèpre. Notre pays, la RDC, s'est inscrit aussi dans cet effort-là. Au niveau de la RDC, on a connu vraiment ces dernières années des progrès et le nombre de cas a sensiblement diminué. Mais il persiste encore un point important de la maladie. Par exemple, en 2013, nous avons dénombré plus de 3000 cas.
Dans tous les pays?
Dans tous les pays. Mais les provinces les plus touchées, c'est le Katanga, la province orientale, la province de Bandundu et l'Équateur.
Et quelles sont les mesures de prise en charge de cette maladie?
Bon, avec la lèpre, il faut vraiment d'abord l'implication de toute la communauté pour sensibiliser la population sur les manifestations de la lèpre, de façon que tout le monde sache reconnaître la lèpre. La première mesure, c'est vraiment l'éducation des communautés et leur implication, parce qu'un malade lépreux peut s'ignorer au début. Par contre, son voisin peut l'aider à reconnaître les signes que le malade présente. Par la suite, il y a les traitements. La lèpre s'est guérie, donc il y a une association d'antibiotiques qu'on donne aux malades pour une période de 6 mois pour la forme possibacillaire et pour presque une année pour la forme multibacillaire. Et il y a un suivi qui s'est fait sur les malades. On doit voir si le malade ne développe pas des complications. Je vous ai parlé des complications au niveau des pieds, il y a des plaies, au niveau des yeux. Donc on doit suivre tout cela et pour s'assurer que le malade suit bien les médicaments. On doit suivre également les contacts, donc l'environnement immédiat du malade, parce qu'on peut supposer que dans son environnement immédiat, il peut y avoir de nouveaux cas.
On voit souvent que les léproseries sont souvent des lieux qui sont mis en quarantaine. C'est pour éviter quoi? La contamination? Ou bien c'est pour tout simplement une prise en charge?
Bon, ça, c'était des mesures qui ont évolué, parce que dans l'ancien temps, on mettait les lèpres dans les léproseries. Mais pour le moment, ce n'est plus le cas, ce n'est pas tellement recommandé. Les lépreux peuvent rester dans son environnement. L'essentiel, c'est de soigner ces lépreux, de suivre son environnement et de prendre tous les nouveaux cas en charge.
Docteur, que répondez-vous aux spécialistes qui disent généralement que la lèpre est une maladie qui est étroitement liée à la pauvreté?
Oui, je pense que cette assertion a une certaine signification compréhensive parce que dans l'évolution, on voit que la lèpre est souvent dans les milieux pauvres où le niveau d'hygiène est faible le niveau d'assainissement est également faible. Par exemple, en Europe, si on a constaté qu'il n'y avait plus de lèpre, ce n'était pas à cause de la médication ou au traitement de la lèpre, c'était plus à cause de l'augmentation du niveau de vie dans les pays développés. Donc, je pense que cette assertion a son pesant d'or. Généralement, on voit les lèpre dans les milieux les plus reculés, dans les milieux pauvres où l'hygiène est à désirer, où le niveau d'assainissement est à désirer.
Et là, quels sont les moyens pour éradiquer cette maladie quand même récurrente, docteur?
Bon, l'effort qui est fait actuellement, c'est de réduire la charge de morbidité. Mais la question d'éradication n'est pas encore envisagée, étant donné que la période d'incubation pour la lèpre est très longue. Je vous ai parlé de 5 ans, voire même 20 ans. Donc, normalement, une telle physiopathologie ne permet pas d'envisager l'éradication de la lèpre à partir du moment où on a encore assez de cas. Donc, ça, c'est une question qui est encore lointaine.
Docteur, pour clore cet entretien, est-ce que vous avez un message, peut-être un dernier mot à la population congolaise qui nous suit et sur cette maladie?
Bon, notre dernier mot, c'est que pour lutter contre la lèpre, il faut un effort collectif. Toutes les communautés doivent être sensibilisées, engagées dans la lutte contre la lèpre et conseiller les malades de consulter. Briser la honte, les malades lépreux doivent avoir une autre image, ils doivent vraiment avoir le courage de consulter les services de soins, mais aussi tous les services de santé, tous les systèmes de santé doivent s'impliquer. On doit être capable de dépister la lèpre dans toutes nos formations sanitaires et les malades doivent avoir des traitements. Étant donné que le traitement est gratuit, je pense qu'il faut encourager les dépistages de la lèpre et les traitements.
Docteur Vital Mundongue Makuma, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Nous ouvrons cette page de brève avec la deuxième édition du festival Amani, prévu du 13 au 15 février 2015 à Goma, au Nord Kivu. L'événement se passera grâce à l'appui du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, dans le cadre de la consolidation de la paix et de la cohabitation pacifique entre les peuples de la région des Grands Lacs. L'appui du PNUD consiste à faciliter le déplacement des artistes, musiciens et autres acteurs vers Goma. La première édition du festival Amani s'était tenue dans la même ville du 14 au 16 février 2014. 59 enfants victimes des conflits au Katanga, en province orientale et dans les deux Kivu, pendant la période du 19 au 27 janvier 2015. Parmi ces enfants, 6 filles qui ont été violées par les parties en conflit, à savoir les Mai Mai, Morgan, la police nationale congolaise et les FARDC. Il s'agit là des données de la section protection de l'enfance de la MONUSCO. 3 des auteurs de ces crimes ont été arrêtés, c'est ce que signale la source. Par ailleurs, dans le cadre de la campagne nationale « Plus jamais de Kadogo » sur le territoire congolais, la section protection de l'enfance de la MONUSCO exhorte les groupes armés à libérer les enfants et à leur permettre de mener une vie normale, notamment aller à l'école et apprendre un métier.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Un peu plus de 68 000 réfugiés centrafricains ont été recensés au mois de novembre dernier. Depuis décembre 2014, un nouvel afflux de 30 000 nouveaux réfugiés fuyant les combats de l'autre côté de la rivière Ubangi se trouverait dans le nord de la province de l'Équateur. Nous avons reçu Céline Schmitt, la porte-parole de la représentation régionale du HCR en RDC. Elle fait le point de ce nouvel afflux et des voies et moyens que son organisation entend mettre au point pour la prise en charge de ces nouveaux réfugiés. Céline Schmitt s'entretient ici avec Honoré Missinga-Kalala.
Céline Schmitt, bonjour.
Bonjour.
Au mois de novembre dernier, les réfugiés centrafricains étaient estimés par le HCR à un peu plus de 68 000. Deux mois après, le nombre a-t-il augmenté ou diminué?
Le nombre a effectivement augmenté, notamment au cours des dernières semaines. Donc nous avons été informés en décembre dernier d'un nouvel afflux de réfugiés centrafricains dans le nord de la RDC, plus précisément dans le territoire de Bosobolo, où des réfugiés fuyaient, selon leur dire, des attaques entre les Antibalaka et les Seleka dans le district de Kwango en République centrafricaine. Nous nous sommes rendus sur place en mission d'évaluation d'urgence, mais également pour pouvoir apporter une première aide. Et selon les chiffres qui nous ont été communiqués par la DGM sur place, il y aurait jusqu'à 30 000 nouveaux réfugiés centrafricains qui seraient arrivés en RDC depuis décembre.
Donc on n'est pas loin de 100 000 réfugiés centrafricains en RDC.
Ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, c'est qu'il faut qu'on vérifie ces chiffres. Donc nous avons déjà envoyé sur place des équipes d'enregistrement. Donc il s'agit d'équipes mixtes, HCR, gouvernement congolais, avec la Commission nationale pour les réfugiés. Ces équipes sont sur place, donc sont dans le territoire de Bossobolo, le long de la frontière, pour enregistrer les réfugiés. Quand ils auront fini le travail, on pourra dire exactement quel est le nombre. Mais selon les premiers enregistrements qui ont été faits par la DGM, il y aurait jusqu'à 30 000 nouveaux réfugiés centrafricains.
Alors Céline Schmitt, le ASR s'était engagé l'année dernière dans l'amélioration de leurs conditions, donc des conditions de vie de ces réfugiés centrafricains, notamment en dotant le site de Molé à l'Équateur et ses environs de quelques infrastructures. Il y avait par exemple la construction d'un centre de santé, et des forages et même la construction d'une école. Comment se présente actuellement la situation dans ce camp Molé en ce début de l'année 2015?
Alors non seulement à Molé, mais également dans les autres camps de réfugiés qui existent, c'est-à-dire le camp de Inke, qui se trouve près de Badolité, et le camp de Boyabo, qui se trouve près de Libengue, nous avons entrepris des travaux de construction d'écoles et de centres de santé. Donc chaque camp, qui disposait jusqu'à présent de centres de santé et d'écoles en structure temporaire, aura désormais une école en dur et un centre de santé en dur. Donc chaque camp aura ses différentes infrastructures. Les travaux sont en cours, sont quasiment finalisés. Donc nous espérons ouvrir ces structures dans les semaines à venir.
Céline Schmitt, quittons le nord de la RDC pour l'ouest et le sud-ouest avec cette fois-ci les réfugiés, j'allais dire les anciens réfugiés angolais. 38 000 d'entre eux étaient candidats au rapatriement volontaire. Entre septembre et novembre 2014, 26% seulement ont pu être rapatriés selon les statistiques de la dernière tripartite RDC Angola-ICR à Kinshasa. De ce côté-là aussi, quels sont les progrès qui ont été réalisés? Quels sont les écueils ou les défis à relever?
Le rapatriement des anciens réfugiés angolais a continué et continue toujours. À la fin de l'année 2014, nous avions atteint le chiffre de 12 500 anciens réfugiés angolais qui sont rentrés chez eux, c'est-à-dire un peu plus de 33% du chiffre total de ceux qui veulent rentrer chez eux. L'opération continue. Effectivement, c'est une opération qui présente des défis logistiques, mais avec nos différents partenaires, c'est-à-dire le gouvernement congolais et les autorités angolaises, l'opération continue et nous espérons que cette année, nous pourrons mettre un terme à ce rapatriement et clore une page dans l'histoire des réfugiés en République démocratique du Congo.
Est-ce qu'il y a un calendrier par rapport aux opérations de rapatriement?
Alors, il faut qu'on tienne compte aussi de la saison des pluies. Donc, on va essayer de faire un maximum avant que les routes soient bloquées par la pluie. On a essayé de ne pas arrêter une date de fin de rapatriement puisque l'objectif est de permettre à tous les anciens réfugiés angolais qui veulent rentrer de pouvoir rentrer chez eux. Donc nous allons continuer cette opération cette année. Et d'un autre côté, nous avons également continué à mettre en œuvre en fait une autre solution qui est l'intégration locale des anciens réfugiés angolais qui souhaitent rester en RDC. Et là, nous avons financé des cartes de séjour temporaires à 18 000 anciens réfugiés angolais qui souhaitent s'intégrer ici en RDC.
Donc tous les 18 000 ont déjà rempli toutes les formalités administratives qu'il faut.
Oui.
Dernière question, Céline Schmitt, en ce début d'année, globalement, quels sont les grands axes de l'action du ACR en République démocratique du Congo pour l'année 2015?
Tout d'abord, l'année 2015 a commencé malheureusement par une nouvelle urgence, qui est l'afflux de nouveaux réfugiés centrafricains dans le nord de la RDC, dans le territoire de Bossobolo. Donc l'objectif là est toujours une réponse d'urgence par rapport à ce nouvel afflux de réfugiés. Nous avons été sur place pour évaluer la situation et voir quelles solutions nous pouvions apporter. Et donc, peut-être que la solution qui sera apportée est la création d'un nouveau camp de réfugiés dans cette zone. Les réfugiés sont très nombreux. Ils ne peuvent pas rester avec la population locale sur place parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux que la population locale. Ils se trouvent sur les berges de la rivière Oubangui, où cela pose des problèmes de protection, mais également de sécurité. Ils sont juste au niveau de la frontière, donc il est urgent de relocaliser ces réfugiés pour qu'ils soient plus loin de la frontière et pour que nous puissions également les assister. Ça, c'est un des premiers objectifs que nous avons pour l'année 2015. Et bien sûr, de manière plus générale, en ce qui concerne les réfugiés centrafricains qui sont en RDC, nous allons continuer à les assister avec nos partenaires, avec notre partenaire gouvernemental aussi, la CNR, dans les différents camps qui ont été ouverts. Ensuite, pour parler un peu de meilleures nouvelles, nous allons également continuer à trouver des solutions pour les réfugiés qui se trouvent sur le sol de la RDC et qui veulent rentrer chez eux, notamment les anciens réfugiés angolais. Donc, nous continuons le rapatriement volontaire pour pouvoir permettre à tous ceux qui veulent rentrer de rentrer chez eux. Et troisièmement, nous continuons aussi à faire du plaidoyer pour la protection des civils qui sont encore dans des zones affectées par le conflit. On parlait récemment du Katanga, mais aussi l'est du pays. Donc là aussi, nous allons continuer notre travail pour assurer la protection des personnes déplacées internes.
Céline Smith, merci de votre disponibilité.
Merci.
Et tout de suite, la nouvelle de province. Des besoins humanitaires urgents se font sentir dans les localités de Katogota, Kiliba et Lubarika. Nous sommes là dans la province du Sud Kivu, précisément dans le nord d'Uvira. Selon Ocha, qui fait ce constat dans son bulletin hebdomadaire, ces besoins humanitaires s'expriment en termes d'assainissement, de purification d'eau, d'abris d'urgence et d'articles ménagers essentiels. Jean-Baptiste Ntonga, journaliste de Radio Kapi Bukavu, le confirme dans un entretien téléphonique avec Honoré Missenga Kalala.
Jean-Baptiste Ntonga, bonjour.
Bonjour, Honoré Missenga.
Oui, Jean-Baptiste, le récent bulletin d'Ocha Sud Kivu fait état des besoins humanitaires urgents dans certaines localités de la province du Sud Kivu, notamment les localités de Katogota, Kiliba et Lubariki au nord d'Uvira. Comment se présente concrètement la situation sur le terrain?
Oui, selon Ocha, plus de 400 maisons ont été endommagées dans cette région suite aux pluies torrentielles du mois de janvier. Près de 250 latrines familiales et scolaires dans cette région déjà endémique au choléra. Plus de 50 hectares de cultures vivrières ont été détruites dans la même région.
Qui a fait le constat et que peut-on retenir des paysans, agriculteurs et des infrastructures scolaires? Et
ces constats sont annoncés par la mission intersectorielle conduite le 27 janvier dernier par Ocha, avec les organisations humanitaires comme Adventist Development and Relief Agency, ADRA en sigle, African Initiative for Relief and Development, AIRD en sigle, la Fondation AFSI et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, HCR. Ocha signale en plus que dans cette région, les deux principales routes de desserte agricole, Lubarika-Katogota, longue de 7 km, et Kamonyi-Katogota, longue de 5 km, ont été également détruites. Et par conséquent, il y a ce besoin pour la population, des besoins qui nécessitent une assistance de la part des humanitaires vivant dans le Sud Kivu.
Si je comprends bien, Jean-Baptiste, on est donc encore au constat. Est-ce que les humanitaires sont mobilisés pour venir au secours de la population?
Oui, Honoré, les humanitaires sont mobilisés, c'est bien évident. Et ils étudient la faisabilité pour subvenir aux besoins de cette population, comme ils l'ont toujours fait au Sud Kivu.
Merci Jean-Baptiste, excellente journée dominicale à Bukavu.
Merci bien, Honoré Missenga.
Magazine des Nations Unies, questions aux Nations Unies.
Je vous propose la question d'un confrère de Raga Télévision sur la protection des enfants, suivie de la réponse de Charles-Antoine Bambara, porte-parole de la MONUSCO et directeur de la division de l'information publique.
Je suis Anthony Chamba de Raga Télévision. Vous avez parlé de la protection de l'enfant. Vous avez fait la ronde de quasiment tous les enfants de la RDC, mais je n'ai pas entendu parler des enfants de Kinshasa. J'aimerais savoir quelle est la situation des enfants de Kinshasa pendant la période des troubles.
Disons que régulièrement, la section protection de l'enfance fait des rapports non seulement au leadership de la mission, mais également aux autorités compétentes des Nations Unies pour qu'elles sachent un peu quelle est l'avancée, parce qu'elle a un mandat de protection des enfants en période de conflit. Il faut le dire de façon spécifique. Et ces différents rapports que nous vous donnons font vraiment le point sur les enfants en conflit, qui ont été libérés, qui ont été rendus, j'allais dire, à leur famille, à leur société, etc. pour le cas des enfants spécifiquement liés, j'allais dire, à la crise politique à l'heure actuelle, cela relève des droits de l'homme et la section des droits de l'homme également en ce qui le concerne fait régulièrement des rapports et vous l'avez entendu tout à l'heure, le général Wafi a dit que des rapports spécifiques documentés vont être faits sur l'ensemble des cas de violation des droits de l'homme. Si effectivement cela implique des enfants, cela sera mis en lumière et porté à la connaissance de qui de droit.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Bonjour, chers auditeurs de Radio Okapi. Je m'appelle Monsieur Gaston Nimukaya. Je suis marié à Marie-Louise Nganji Omoi. J'ai un enfant. Il s'appelle Emmanuel Nimu. Mais également, je suis responsable d'une très grande famille. J'ai fait mes études primaires à Tetengomba dans le Kasaï oriental, plus précisément à Katakokombe. Mes études secondaires au collège Owambakoto, appelé Saint-Albert-le-Grand. Et là où j'ai décroché mon diplôme d'état des humanités pédagogiques. Et puis après, je suis allé à Kisangani, où j'ai fait l'ISP Kisangani, où j'ai obtenu mon diplôme de graduat en 1984. Après, je suis allé à l'ISP Bukavu, où j'ai eu ma licence en anglais en 88. Et de là, je suis revenu encore à Kisangani en 2003, où j'ai fait l'université de Kisangani, plus particulièrement la faculté de lettres de l'université de Kisangani, au département de langue et littérature anglaise, où je suis sorti également licencié en langue et littérature anglaise. À la MONUSCO, je suis arrivé comme enseignant de langue à Kisangani toujours, jusqu'en 2008. Et de là, je suis arrivé à Kinshasa. J'ai été recruté à Kinshasa en 2008 comme Program Assistant, donc assistant au programme à Rule of Law, donc actuellement la section d'appui à la justice. Et là, chaque matin, quand j'arrive, j'ouvre mon ordinateur, je commence par une petite prière et puis après, je consulte mon chef. En fait, le coordonnateur de notre unité. Je vois quelles sont les réunions qui sont prévues, la réunion au Conseil supérieur de la magistrature, la réunion au ministère de la Justice, mais aussi avec le partenaire comme le PNUD et l'OIM. Après, je reviens à mon bureau, à mon poste de travail, où je consulte le mail. Je coordonne avec les collègues de Goma pour le moment, parce que une grande partie de notre section est basée à Goma, où on échange par rapport au projet d'appui aux poursuites, pour voir quelles sont les demandes d'appui qui sont en pending, et puis éventuellement... les termes de référence qui ont été amendés, on le corrige et nous essayons de les envoyer au superviseur. Et puis voilà, avant que je n'arrive à la MONUSCO, j'ai été enseignant et directeur au complexe scolaire Omveyen à Kisangani. Et puis également assistant à l'université de Kisangani, à la faculté des lettres, au département d'anglais. Mais bien avant cela également, j'ai été président provincial de la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo, province orientale, pendant plus de 8 ans. Et pendant mon temps libre, j'aime le foot et je le pratique également parce que je joue encore. Et comme la musique, moi ben j'aime la musique traditionnelle au Tétéla. Donc voilà, ça c'est la musique traditionnelle au Tétéla. Bon, comme ma principale, j'aime le riz au pondou. Et puis après la MONUSCO, j'aimerais vraiment retourner à l'enseignement parce que j'aime beaucoup l'enseignement. Mais aussi, je voudrais dédier un livre que je suis en train d'écrire sur la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo parce que j'ai pu œuvrer pendant plus de 20 ans avec cette organisation internationale et pour justement voir dans quelle mesure je peux apporter ma pierre pour à souffrir un tout petit peu les souffrances des plus vulnérables. Je vous remercie.
magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Et dans la semaine qui commence, retenez au moins ces trois journées. Le 4 février, c'est la journée mondiale contre le cancer. Le 6 février, un double événement, la journée mondiale sans téléphone mobile et la journée internationale contre les mutilations génitales. Merci d'avoir suivi cette émission supervisée par Léonard Moulamba et coordonnée par Jean-Pierre Elali Koko. Honoré Missenga a été au reportage, Lydie Bettina à la présentation et Sylvain Matundo à la mise en onde. L'émission est à réécouter sur notre site internet radioocapi.net. Merci de votre fidélité et à la prochaine.